Ce matin, je vous propose une méditation sur Jésus et le politique. Alors, pas la politique, mais le politique. La langue française permet de faire la distinction entre le politique et la politique. Alors, la politique, c'est la manière de gouverner par des opinions politiques, de gauche, de droite. Des théories comme le marxisme, le capitalisme, des idéologies, il y a des bonnes politiques, du mot politique au féminin, comme il y a aussi des mauvaises politiques. Le nazisme était une politique épouvantable, le stalinisme aussi. Mais le politique, c'est ce qui concerne l'organisation de la vie en société. Et nous avons tous besoin du politique, ou de la vie politique. Nous ne pouvons pas nous en passer, comme nous ne pouvons pas nous passer de lois pour vivre ensemble. C'est donc du politique que j'aimerais vous entretenir un peu, et pour commencer, après cette petite définition de vocabulaire, je vous invite à lire deux textes, l'un dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, il est très court et il est bien connu. Vous pouvez même, je pense, le citer de mémoire. Matthieu 22, verset 21. Jésus leur dit, donc à ces pharisiens qui sont venus lui demander s'il était normal de payer l'impôt à César en tant que juif, hein, Jésus répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et puis Matthieu chapitre 20, versets 25 et 26, juste après que la mère des fils de Zébédée, donc Madame Zébédée ou l'épouse de Zébédée, lui demandait d'ordonner que ses deux fils soient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans son royaume. Jésus dit que ses disciples ne doivent pas se comporter comme les gouvernants de notre monde. Et il a cette remarque au verset 25. Vous savez que les chefs des nations tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir. Il n'en sera pas de même parmi vous. Tout d'abord, j'aimerais souligner que nous pouvons remercier Dieu d'être dans une démocratie et dans un état de droit. C'est-à-dire que certaines règles élémentaires de justice, de liberté, sont respectées dans notre pays. Quoi qu'on en dise, nous ne sommes pas dans une dictature et nous ne sommes pas non plus dans ce qu'on appelle parfois, peut-être ironiquement, une république bananière. Si la France ressemblait à la Corée du Nord, nous aurions probablement aujourd'hui un arrière-petit-fils du général de Gaulle, s'il s'était comporté en dictateur. Et nous n'aurions pas pu nous réunir ici ce matin pour louer Dieu, et d'ailleurs ce bâtiment n'aurait jamais vu le jour. Nous sommes dans un pays dit « libre ». C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de droits individuels, comme la liberté d'opinion, la liberté de religion, la liberté de nous déplacer dans le monde. Il n'y a pas de mur ou de grillage qui nous en empêche. Nous avons le droit de faire grève, de nous réunir, sans être inquiétés par une police à la solde d'un dictateur. Toutes les opinions, dans la mesure où elles n'entraînent pas des actes violents, peuvent être représentées. Notre système politique s'appelle la démocratie, c'est-à-dire littéralement le gouvernement par le peuple. C'est pourquoi nous votons, Nous élisons nos députés qui font les lois. Notre président de la République qui sera élu au suffrage universel, c'est-à-dire par tous ceux qui sont en droit de voter, nommera un gouvernement en accord avec le Parlement et avec les orientations politiques. Enfin, il espère qu'il représente ou qu'il représentera. Nous savons bien que la bonne volonté, les promesses dont on parlait tout à l'heure ne suffisent pas, que les promesses ne sont pas toutes tenues, mais ça fait partie de notre nature humaine. Churchill a dit, alors vous connaissez tous Churchill, enfin en tout cas vous avez entendu parler de Churchill, s'est distingué comme Premier ministre en Angleterre pendant la guerre, la dernière guerre mondiale. Il a dit que la démocratie est le pire des pires systèmes de gouvernement, à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire, comme on dit familièrement, que c'est le moins pire, ou le moins bon plutôt, pour être correct. Dans les siècles qui nous ont précédés, ce sont des chrétiens qui ont mis en place le système démocratique que nous connaissons aujourd'hui dans un monde où il n'était pas envisagé qu'on puisse penser différemment de son roi. La règle était un roi, une foi, une loi. C'est le baptiste Roger William, né en 1603, mort en 1684, qui a donné la liberté religieuse à son peuple dans le Rhode Island, donc dans les États-Unis naissants. Et il l'a inscrit dans sa constitution. Jusque-là, et c'était le cas en Europe, les gens étaient obligés de croire ce que croyaient leur roi, leur prince, leur gouvernant. Et ceux qui ont voulu faire autrement, c'était le cas des anabaptistes au XVIe siècle, notamment à partir de la Suisse, puis après c'est un mouvement qui s'est répandu. Ils n'étaient pas d'accord avec cela, ils pensaient que la foi était une question toute individuelle. Ils ont été terriblement persécutés. Lorsque nos églises évangéliques se sont développées en France au début du XIXe siècle, c'est tout naturellement que les femmes, les sœurs, ont participé au vote de l'Assemblée. Puisque le principe de nos églises est que nous votons en tant que membres pour les décisions plus ou moins importantes. Mais il n'y a pas que les hommes qui votent, les femmes aussi votent. Et ça a été le cas depuis l'origine de ces églises dites évangéliques. Je vous rappelle que dans notre société française, mesdames, mes sœurs, vous avez obtenu le droit de vote en 1944. Et que si vous étiez Suissesse, dans le canton d'Appenzell, très joli canton d'ailleurs, où il y a du très bon fromage, ce n'est qu'en 1990 que vous auriez obtenu le droit de vote. Non par un vote, parce qu'à chaque fois c'est les hommes qui votaient pour savoir si les femmes devaient avoir le droit de vote ou pas, et ils votaient non. Mais par une décision du tribunal fédéral qui jugeait qu'il était anticonstitutionnel que les femmes ne votent pas. La démocratie se trouve dans la première église du Nouveau Testament, l'église de Jérusalem, dès l'origine, Actes chapitre 6. Voilà qu'il y a un problème. Certaines personnes sont négligées dans la distribution sociale de nourriture, dans l'aide apportée par l'Église auprès des plus pauvres. Hein. Certains reçoivent plus et d'autres moins ou pas du tout. Alors, les apôtres disent, eh bien, on va voter. Et ils proposent un vote à l'Assemblée pour élire quelques diacres qui veilleront à ce que justice soit rendue. Acte 6, chapitre 3, je lis dans la traduction second 21, c'est peut-être pas tout à fait pareil dans toutes les traductions. C'est pourquoi, frères et sœurs, et non pas seulement frères, c'est vrai qu'en grec c'est le mot frère qui est utilisé, mais ce mot frère, comme le mot homme en français, regroupe les hommes et les femmes. Hein. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez ou élisez parmi vous sept hommes, etc., qui seront remplis du Saint-Esprit, de sagesse, etc., pour servir aux tables. Verset 5, ce discours, donc, des apôtres, plut à toute la multitude, ils élurent Étienne et d'autres, sept personnes parmi eux pour accomplir ce travail. Il est donc tout à fait naturel que l'on retrouve cette pratique d'élection, cette pratique démocratique dans nos églises. Nous élisons notre pasteur, nous élisons la construction d'un bâtiment lorsqu'il y a des fonds qui sont engagés. Voilà, nous prenons la décision ensemble et c'est une pratique démocratique dans nos églises bien avant que le droit de vote ne soit accordé aux femmes dans notre pays. Deuxièmement, quelle attitude avait Jésus à l'égard des gouvernants, à l'égard du politique? Tout d'abord, il reconnaît la nécessité du pouvoir politique. À Pilate, le gouverneur, le préfet, institué par Rome, hein, c'était l'Empire romain, donc un pouvoir qui n'était pas du tout en accord avec Dieu. Hein. Les Romains étaient polythéistes, ils croyaient en une multitude de dieux. À Pilate, il dira que son pouvoir vient d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Jean 19, verset 11. Il accorde donc, Jésus, un pouvoir légitime aux autorités politiques qui ne reconnaissent pas Dieu. Pour Jésus, il est justifié de payer l'impôt à César, nous l'avons lu tout à l'heure, rendez à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire au gouvernement politique, au gouvernement des hommes, hein, au pouvoir temporel, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et pour l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, il est tout à fait normal, juste, de payer ses impôts. Au cas où vous l'aurez oublié, je vous le rappelle. Deuxièmement, donc premièrement, le pouvoir, même si ce n'est pas un pouvoir chrétien ou venant de Dieu, est tout à fait légitime pour Jésus. Deuxièmement, Jésus est pour la séparation des églises et de l'État. Il a fallu attendre le XVIe siècle dans l'histoire de notre christianisme pour en arriver à cette découverte. Dans ce fameux « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu », Jésus opère une stricte démarcation entre le pouvoir politique, le pouvoir temporel, et le pouvoir spirituel, ce qui appartient à Dieu. Et je rappelle donc ce que je disais tout à l'heure, que cette démarcation a été fortement revendiquée par les anabaptistes du XVIe siècle. Ils ont milité pour une séparation des domaines politiques et religieux. Mais à cette époque, dans tous les pays européens, en tout cas, quand on naissait, notre état civil se passait à l'Église, on se faisait baptiser à l'Église, et c'est là où on était inscrit dans les registres, ce n'était pas à la mairie. Rappelons qu'en France, la loi de la séparation des églises et de l'État date de 1905. Alors qu'elle est déjà contenue dans cette fameuse parole de Jésus. Troisième petit point, Jésus respecte les hommes, quels qu'ils soient, sans différence d'origine, d'appartenance ethnique ou politique. Il a pris la fâcheuse habitude, Jésus, d'opérer des guérisons le jour du sabbat, ce qui était intolérable pour les juifs pharisiens. Non, le sabbat, il ne faut rien faire, il faut simplement prier, se reposer 2-3 kilomètres, pas plus. Et Jésus dit, cette parole quand même, fondamental, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il place l'homme au-dessus de la loi, des institutions. L'homme prime. Si vous avez un blessé grave qui perd son sang, que vous rencontrez au bord de la route ou chez vous, enfin, ou quelque chose de très grave, une personne que vous devez conduire à l'hôpital, vous allez griller les feux rouges, en faisant attention peut-être de ne pas vous faire, de ne pas avoir d'accident. Mais la priorité, c'est de sauver cette personne. C'est ce que font les ambulances et les voitures de pompiers. L'homme prime avant la loi. Et Jésus répond favorablement à la demande d'un officier romain. Et l'officier romain, c'était un chef de l'armée d'occupation. Il répond tout aussi favorablement à la demande d'un officier romain qu'un juif, donc quelqu'un de son peuple, qui vient lui demander de guérir son enfant ou qui vient lui demander secours. Quatrième petit point, Jésus ne se fait aucune illusion sur le pouvoir politique. Et il a des paroles dures à l'égard des gouvernants, dont il ne se fait aucune illusion. Nous l'avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. Les chefs des nations tyrannisent, les grands abusent de leur pouvoir. Et le roi Hérode, il l'appelle, à juste titre sans doute, un renard. Et ce qui est loin d'être flatteur. Mais il se situe aussi au-dessus de la politique des hommes. « Mon royaume, dira-t-il, n'est pas de ce monde », il le dira à Pilate. Troisième point, la Bible dénonce l'injustice des hommes. Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons la dénoncer. Que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et notamment chez Jésus, l'injustice est fortement dénoncée. Jérémie, chapitre 22, verset 1, parole de Dieu à Jérémie, je lis, « Descends dans la maison du roi de Juda, va trouver le roi de ton pays. » Alors, peut-être que Jérémie avait des ouvertures que nous n'avons pas, hein, mais d'autres que nous peuvent nous représenter. Hein. Descends dans la maison du roi de Juda, et là, prononce cette parole, verset 3, mais il y en a beaucoup d'autres, mais je les sélectionne. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez le droit et la justice, délivrez des mains de l'oppresseur celui qui est exploité, ne maltraitez pas les migrants, l'orphelin et la veuve. Verset 13. Malheur à celui qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner un salaire. Injustice sociale. Tout le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu mérite d'être lu, parce que nous avons des paroles de Jésus très dites, très dures, très critiques à l'égard des pharisiens. C'est le parti religieux et politique qui était au pouvoir à Jérusalem à son époque. Il critique la dureté avec laquelle ils imposent la loi sans tenir compte des besoins des hommes, notamment de ceux qu'il guérit le jour du sabbat. Verset 16 du chapitre 23 de Matthieu, « Malheur à vous, conducteurs aveugles !» Verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » Verset 33, « Il n'y va pas de main morte, serpent, race de vipère, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne. » Il invective les dirigeants du peuple qui auraient dû montrer l'exemple et se comporter en juste dirigeant. Et puis, un dernier texte dans l'épître de Jacques, que Bernard a lu tout à l'heure au chapitre 1er, mais nous lirons au chapitre 5, versets 1 à 6, épître de Jacques. À vous maintenant, je lis, hein, à vous maintenant les riches, pleurez à grands cris, à cause des malheurs qui viendront sur vous, Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Tous les riches ne sont pas inclus dans cette condamnation. Au chapitre 1 et au verset 10, Jacques mentionne des riches auxquels il s'adresse. Mais ceux à qui il s'adresse ici, au chapitre 5, ce sont de riches propriétaires terriens qui n'avaient qu'un désir de s'enrichir toujours plus, d'étouffer les petits propriétaires, de leur prendre leur parcelle de terrain, de les réduire à la misère dans le but de les spolier toujours pour s'enrichir. Et ils profitent de leur richesse pour vivre dans la débauche, pour tuer les justes, autrement dit, les pauvres qui n'ont pas les moyens de se défendre, comme par exemple ça a été le cas pour Naboth dans le premier livre de Rois, au chapitre 21, parce qu'il avait une terre que convoitait le roi Akab, et pour finir, le roi Akab l'a calomnié et l'a fait tuer, et puis lui a pris sa terre. Leur richesse leur donne l'impression d'être tout-puissants. Ils vivent dans l'indifférence des besoins des autres et dans l'injustice à l'égard des autres. Et on pourrait dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Alors il faut oser, comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme Jésus, comme l'apôtre Jacques, il faut oser élever la voix, dénoncer l'injustice, agir pour que ça change, mais dans l'esprit de l'Évangile, dans l'esprit que nous a montré Jésus. Alors, dernier point, quelle doit être notre attitude face aux autorités? Romains chapitre 13, verset 1-10, nous ne le lirons pas, mais je vous invite aussi à le lire chez vous. Nous sommes exhortés à nous soumettre aux autorités, dit Paul, qui sont instituées par Dieu pour nous inciter au bien. C'est aussi ce qu'écrit l'apôtre Pierre. Premier épître, chapitre 2, verset 13, je lis, « À cause du Seigneur ». Oui, à cause du Seigneur. C'est toujours notre référence suprême, le Seigneur. « Soyez soumis à toute institution humaine, les rois, les gouverneurs, comme envoyés par le Seigneur pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien ». Pour Paul et pour Pierre, le rôle de l'État, des gouvernants, c'est de punir le méchant et de protéger le faible. L'État est donc une bénédiction de Dieu, et c'est en ce sens seulement qu'il est au service de Dieu. Romains 13, verset 4, Paul écrit « L'autorité est au service de Dieu pour notre bien ». Mais alors, si elle incite au mal, elle n'est plus au service de Dieu. Et à ce moment-là, nous n'avons pas l'obligation de nous soumettre à cette autorité-là. Un exemple précis se trouve dans le livre des Actes au chapitre 5, lorsque les autorités de Jérusalem frappe l'apôtre Pierre et d'autres parce qu'ils parlent de Jésus ouvertement au peuple, ils leur disent de se taire et de ne plus annoncer cet évangile, sinon ils les mettront en prison. Et Jésus répond, qu'il vaut mieux, Pierre, pardon, répond qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'aux autorités. Lorsqu'il y a des lois scélérates, la loi de dénoncer des juifs pour les envoyer dans des camps, par exemple, je crois que le chrétien n'a pas à se soumettre à ce genre d'autorité. C'est une soumission conditionnelle, car l'obéissance aux autorités est subordonnée à l'accomplissement par celles-ci des fonctions pour lesquelles elles ont été instituées, louer le bien, punir le mal. Et Paul écrit au verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis aux autorités par motif de conscience. La conscience, renouvelée par l'Esprit de Dieu, doit être pour nous aussi une indication, un signe indicateur. Indirectement, Paul nous incite à faire le bien dans notre monde, dans notre société. Et dans son discours à la maison du centenier Corneille, Actes chapitre 10, verset 38, l'apôtre Pierre parle de Jésus, et je trouve cette définition de la vie, ce résumé de la vie de Jésus extraordinaire. Il parle de Jésus comme quelqu'un, je cite, qui faisait du bien partout où il allait. Voilà, magnifique définition, magnifique résumé de la vie de Jésus. Ce n'est pas la seule, bien évidemment. Il faisait du bien partout où il allait. À nous donc d'être inventifs et de répondre aux besoins de nos concitoyens en faisant le bien, c'est-à-dire oser l'impossible, croire que nous pouvons, avec l'aide de Dieu, apporter des solutions aux besoins criants de notre prochain. Voilà ce qu'ont fait des chrétiens dans notre histoire et encore aujourd'hui. La liste en est longue, mais je vous en cite que deux ou trois. Le Suisse Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Il a obtenu le droit, ça nous paraît élémentaire, mais à cette époque, ce n'était pas le cas, de soigner des blessés sur les champs de bataille, quels qu'ils soient, de son bord ou de l'autre bord, hein, ennemi ou allié. Voilà, il a obtenu ce droit-là. Aujourd'hui, en Syrie, la Croix-Rouge a de la peine à frayer son chemin pour soigner les blessés. L'anglais William Wilberforce fit abolir l'esclavage par le Parlement britannique. Il était parlementaire. Il a réussi à faire abolir l'esclavage. Et il y a, à partir de ce moment-là, tout un tas de navires appartenant au Royaume-Uni. Et vous savez, c'était immense à l'époque. Le Royaume-Uni sillonnait les mers du globe entier. C'était le Commonwealth, hein. Et ces bateaux allaient arrêter des négriers, hein, qui prenaient des Noirs en Afrique et qui les amenaient en Amérique ou ailleurs, grâce à ce chrétien, William Wilberforce. Et puis je cite encore un Français, un Suisse, un Anglais, un Français, Charles Péan. Il est né en 1901, il est mort en 1991, officier de l'Armée du Salut, qui contribua fortement, c'est quand même grâce à lui, que le bagne de Cayenne a été supprimé. Voilà donc des personnes qui ont été inventives, qui ont essayé, osé, avec l'aide de Dieu, de répondre aux besoins criants de leurs concitoyens. Et puis, bien sûr, la prière. Dieu nous demande de prier pour ceux qui occupent une position d'autorité. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, « Priez, dit Paul, pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible en toute piété et dignité. » dignité, voilà la dignité humaine, en toute piété, c'est-à-dire que nous puissions aussi vivre notre foi normalement. Et prier pour que l'Évangile soit proclamé, pour que les hommes parviennent, écrit Paul, à la connaissance de la vérité. Et en général, la prière débouche sur l'action. Commencer à prier, c'est déjà commencer à se rendre disponible entre les mains de Dieu pour qu'il nous utilise aussi. Prions donc pour que nous menions une vie paisible, en toute piété, en toute dignité, et pour que l'Évangile soit proclamé dans notre pays. Alors je conclus en deux mots. Il existe une tension inhérente au fait d'être chrétien. Nous sommes dans le monde sans être du monde, citoyens des cieux, mais aussi citoyens du monde. Et nous n'avons pas le droit de faire comme si nous n'étions que des citoyens du ciel sans nous préoccuper de ce qui nous entoure, de notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même ne veut rien dire d'autre que cela. Et la vie chrétienne se situe dans l'équilibre entre les deux. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus, montrant par là le bien que nous pouvons apporter à notre société. Et le sel, à l'époque de Jésus surtout, ça empêchait la corruption. Et Jésus ajoute, Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. » Il ne dit pas « vos chants pieux », il dit « vos œuvres bonnes ». Il ne dit pas « vos longues prières », il dit « vos œuvres bonnes ». Et rende gloire à votre Père qui est dans les cieux. Et puis juste un dernier verset, Jérémie 28, verset 7. « Cherchez la paix de la nation ». Et la paix de la nation, dit Jérémie à ses déportés en Babylonie, c'était ces Juifs qui avaient été déportés, une véritable déportation de la Judée, de Jérusalem à Babylone, et qui étaient dans un pays païen, avec un roi de Babylone qui les avait vaincus, qui était venu leur faire la guerre, et qui ne croyait pas au Dieu de la Bible. Hein. Cherchez la paix de la nation où vous êtes, dit Jérémie à ses déportés, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Voilà, nous ne sommes pas sur une île, nous sommes entourés de gens qui ne pensent peut-être pas comme nous, mais voilà, nous bénéficions aussi du travail, des réalisations des uns et des autres. Et ils ne sont pas forcément de notre bord, mais le Seigneur nous demande de prier pour eux et d'agir aussi pour qu'ils puissent être reconnus comme tels et que la justice, celle que Dieu nous a annoncée en Jésus-Christ, puisse être aussi mise en œuvre. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous montre le chemin à suivre et nous voulons avant tout être dirigés par toi pour que nous soyons tes témoins, pour que tu puisses vraiment être glorifié à travers notre vie. Aide-nous encore en ce jour de vote, d'élection, à être de fidèles citoyens et aide-nous aussi à prier pour notre pays, pour nos concitoyens, pour ceux qui nous entourent, pour nous-mêmes aussi, pour que nous sachions par nos œuvres bonnes les attirer à toi. Merci encore pour ce que tu es pour nous et veux diriger chacun d'entre nous.